Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 17e épisode, je voudrais parler du Groenland, du Canada et de Panama.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Le 7 janvier, Donald Trump a tenu une conférence de presse en direct de Mar-a-Lago où il a dévoilé une partie de sa vision géostratégique. Parmi les propos polémiques tenus, il y évoque la fusion avec le Canada, la récupération du canal de Panama et le rachat du Groenland. Vendredi, le premier ministre du Groenland, Mutte Hegede, a indiqué qu'il était prêt à parler à Trump. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, reprenons point par point. L'investiture de Donald Trump est dans 8 jours et il a déjà réussi à fâcher l'Union européenne, le Danemark, Panama, le Mexique, les Russes, tout ça au cours d'une conférence de presse qui a duré peut-être 1 heure. Et c'est évidemment sans compter les polémiques à répétition d'Elon Musk, le futur responsable du DOGE, c'est-à-dire le Department of Government Efficiency, donc censé annihiler la bureaucratie excessive du gouvernement. Les polémiques donc d'Elon Musk envers Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Olaf Scholz, le chancelier allemand, puisque comme on le sait, Elon Musk a pris parti pour l'AFD, qui est le parti d'extrême droite allemand en vue des futures élections en Allemagne, et aussi envers Thierry Breton, qui est l'ancien commissaire européen. Et on en a pour 4 ans comme ça. Commençons par le Canada. C'est évidemment une boutade, un moyen de mettre la pression sur Justin Trudeau, que Donald Trump n'aime pas. D'ailleurs, les soutiens de Trump, et ça inclut Fox News, appellent Justin Trudeau gouverneur maintenant pour se moquer de lui, au lieu de Premier ministre. Ce qui est en quelque sorte une façon d'indiquer que le Canada serait déjà le 51e État. Au passage, ça ne ferait pas l'affaire des Républicains, car si le Canada devenait vraiment un jour le 51e État, il serait le plus peuplé de tous les États des États-Unis, devant la Californie et le Texas. Et il voterait en grande partie à cause des provinces de l'Est, donc Ontario, Québec et les Maritimes, il voterait en majorité démocrate. Donc, entre la Californie et le Canada, ça ferait déjà beaucoup plus que 100 grands électeurs, ce qui signifie qu'un candidat MAGA n'aurait mathématiquement presque aucune chance d'être élu. Donc, l'intégration du Canada pourrait en fait bouleverser l'équilibre entre les républicains et les démocrates. Néanmoins, c'est évidemment une hypothèse qui reste encore très fantaisiste.
Panama ?
Après la crise du canal de Suez en 1956, les Panaméens ont commencé à s'agiter et à demander le contrôle du canal. Donc le canal, comme on sait, qui avait été construit par les Américains après plusieurs essais infructueux des Français. En 1977, Jimmy Carter, le président américain à l'époque, avait négocié un accord stipulant que le canal serait rétrocédé aux Panaméens en 1999, et cela sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'en gros, le canal devait respecter une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas bénéficier à un pays ou privilégier un pays ou une puissance plutôt qu'une autre. Il y a quelques années, Panama a lancé un grand appel d'offres international, et c'est une société hongkongaise, Hutchinson Whampoa, qui appartient à un des plus grands milliardaires d'Asie, Li Ka-shing, qui a remporté le contrat de gestion du canal. Donc c'est probablement en partie à ça que Donald Trump se référait lors de sa conférence de presse du 7 janvier, quand il parlait des intérêts chinois et de sa crainte que la Chine essaye en fait de prendre le contrôle du canal. Sinon, Trump prétend que Panama fait payer des droits de passage beaucoup plus élevés aux navires américains, et c'est évidemment une situation à laquelle il veut remédier, et finalement, l'intérêt stratégique du canal, il n'est plus à démontrer.
Et le Groenland ?
Ce n'est pas la première fois qu'un président américain a manifesté l'intention d'acquérir le Groenland. On l'a évidemment oublié parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du Groenland entre 1951 et 2019 quand Trump a commencé à l'évoquer. Donc en 1867, Andrew Johnson a racheté l'Alaska aux Russes, au tsar Alexandre II à l'époque, mais au même moment, il avait également envisagé d'acheter le Groenland, qui à l'époque était une colonie danoise et maintenant un territoire autonome du Danemark. Mais ça ne s'est pas fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc après l'invasion du Danemark par l'Allemagne nazie en 1940, Roosevelt s'est emparé du Groenland, tout simplement pour éviter qu'une autre puissance menace les intérêts américains. Il faut évidemment rappeler la proximité du Groenland par rapport au continent nord-américain. À la fin de la guerre, Truman a également proposé de l'acheter, à l'époque pour une somme de 100 millions de dollars, et finalement, en 1951, le même Truman a négocié un accord de défense avec le Danemark et le Groenland qui donnait aux États-Unis une base militaire qui s'appelle la base de Pitufik dans le nord-ouest de l'île. La base, qui d'ailleurs est située à peu près à mi-chemin entre New York et Moscou, dispose notamment d'un système avancé de détection de missiles balistiques.
Trump avait déjà parlé du Groenland lors de son premier mandat. Pourquoi relance-t-il le sujet maintenant?
C'est juste, en 2019, il avait déjà évoqué l'idée d'un rachat. À l'époque, les gens avaient écouté ça en se disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Il avait même annulé une visite officielle au Danemark après que la première ministre danoise ait justement refusé toute négociation sur le sujet. En fait, pour comprendre l'intérêt pour le Groenland, il faut comprendre pas mal de choses. Il faut notamment comprendre la fonte des glaces et le réchauffement climatique. Ce qui se passe, c'est que le passage du nord-ouest, qui en fait longe la côte du Groenland, à cause justement d'une partie de la fonte des glaces de l'Arctique, va bientôt être réouvert.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer?
La route la plus rapide entre l'Amérique du Nord, la Scandinavie et une partie de la Russie passe par l'Arctique. Le Groenland est la plus grande île du monde et a une population de seulement 56 000 habitants. C'est en gros la capacité d'accueil moyenne d'un stade de football américain. Donc d'un point de vue géostratégique, les conservateurs américains viennent de réaliser l'importance future de la région arctique et son impact sur la région nord-atlantique. Les Scandinaves, les Islandais, les Danois, eux, ils ont compris ça depuis très longtemps. En fait, on peut très bien imaginer une sorte de futur grand jeu, pour faire référence au grand jeu du 19e siècle, une sorte de grand jeu arctique qui impliquerait les États-Unis, le Canada, la Russie, mais aussi une partie de l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande et la Grande-Bretagne. Et le Groenland deviendrait un pion essentiel dans cet échiquier.
Et pourquoi?
Comme je le disais, l'île est pratiquement inhabitée. Avec la fonte des glaces à terme, ça risque de ne plus être le cas, puisque l'île, évidemment, disposera d'une surface habitable sûrement plus étendue. De plus, le Groenland dispose d'une grande quantité de métaux rares, qui est une obsession américaine, notamment vis-à-vis de la concurrence chinoise, puisque les métaux rares, c'est les métaux qui permettent à une partie des nouvelles technologies de fonctionner. Enfin, c'est aussi, comme je le disais, une étape essentielle sur la route maritime qui traverse l'Arctique et qui a toutes les chances de représenter une grande part des échanges entre le nord-est américain et l'Europe du Nord, voire la Russie, dans le futur. De plus, c'est évidemment un avant-poste militaire de très grande valeur.
Que va-t-il faire, à votre avis?
Cette fois-ci, je ne crois pas que Donald Trump va lâcher. Évidemment, employer la force ou la coercition économique, ça serait de très mauvais goût pour récupérer le Groenland. N'oublions pas que l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un pays de l'OTAN est une attaque contre tous, il ne prévoyait pas un cas de figure où c'était les États-Unis qui attaquent ou qui utilisent la force militaire contre l'un de leurs alliés. Parce qu'encore une fois, rappelons-le, le Groenland, c'est un territoire autonome, mais du Danemark. Non, si on veut vraiment faire de la politique fiction, en gros, à quoi ça pourrait ressembler? Je vois principalement deux cas de figure. Soit les déclarations intempestives de Donald Trump conduiront, dans quelques temps, quelques mois ou quelques années, à un deal tripartite entre les États-Unis, le Groenland et le Danemark. L'île obtiendrait ainsi une quasi-indépendance. Les États-Unis auraient accès à des minéraux rares, qui est évidemment ce qu'ils recherchent, à des bases militaires, et le Danemark conserverait un droit de regard en fait assez symbolique, assez théorique. L'autre option est les déclarations du Premier ministre du Groenland récemment qui contredisent en partie celles de la Première ministre danoise. Ces déclarations indiquant qu'il est prêt à rencontrer Trump me feraient pencher pour la deuxième option. Cette deuxième option donc, c'est que les Groenlandais pourraient utiliser le débat et la polémique que vient de soulever Trump pour s'infiltrer dans la brèche, que dans un certain temps, je sais pas, quelques mois ou quelques semaines, ils vont bientôt annoncer un référendum sur l'indépendance, que le résultat sera oui, et qu'une fois indépendant, le Groenland signera tout un ensemble d'accords militaires d'exclusivité avec les États-Unis, qui probablement feraient d'eux des rentiers pour les siècles à venir, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de milliards de dollars par an pour en fait satisfaire 56 000 habitants, et leur île deviendrait de facto une colonie de l'Amérique. Trump aurait obtenu ce qu'il veut, et l'Europe peut-être comprendra enfin que le monde a changé et qu'elle doit prendre sa destinée en main.
Vous ne pensez pas que Trump est un intermède, une anomalie dans l'histoire américaine ?
Non. C'est ce que les Européens voudraient croire, et c'est ça qui est justement bien dangereux, puisqu'on a bien vu ce qui s'est passé. Une fois qu'il est parti, l'Europe a en fait continué à agir exactement comme avant Trump, en espérant qu'il ne serait jamais réélu, et maintenant on voit le résultat. En revanche, son style est probablement unique. Quant à l'évolution de la politique américaine, certainement pas. Pour retrouver l'équilibre qui a été perdu dans les relations États-Unis-Europe, deux choses comptent. Il faut réduire le décrochage économique qui a significativement augmenté depuis 20 ans entre les États-Unis et l'Europe. C'est malheureusement quelque chose d'essentiel, mais dont on ne parle pas assez en Europe. Pour cela, il n'existe qu'une seule solution. La refonte totale du modèle socio-économique européen. Ça veut dire quoi ? Principalement deux choses. La déréglementation, donc moins de normes, moins de bureaucratie. Une libération en fait des forces vives des différentes nations européennes. Et évidemment, la baisse de la pression fiscale. Si ces deux conditions sont remplies, la croissance reviendra, la dette baissera et on aura un regain de souveraineté.
Et la deuxième condition ?
Le réinvestissement européen dans son appareil de défense, qui a commencé, on va le dire, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le comportement républicain symbolisé par celui de Trump, qui en est en fait une sorte de caricature presque, mais ce comportement vis-à-vis des alliés européens n'est pas un accident de l'histoire. C'est en fait la conséquence directe du décrochage économique européen et de son désinvestissement dans son appareil de défense. Tout cela au nom d'un modèle socio-économique inadapté à la nouvelle donne du monde moderne.